C'est reparti pour un tour.
Arthur, on est bon?
Captain Ventus speaking, we are okay.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30.
Beaucoup de local et un peu d'autres choses.
Sonotone.
Ok.
Lunettes.
Ok. Question édito.
Ok.
Et parfois des redis.
Génial.
Décollage immédiat pour les matinales de Bartas.
Sur le 107 FM.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes lundi 26 juin, il est 8h30. Au programme de cette matinale, nous serons dans un instant avec Olivier Cagna, qui est co-directeur du Réel CPIE 48, et avec lui nous parlerons des papillons fringants, toute cette série d'événements culturellement naturels qui se passent entre avril et octobre, et ici particulièrement de celui qui se passera ce samedi 1er juillet, perché là-haut du côté du Blémard. Bref, nous en saurons plus avec lui dans quelques instants. Et puis en deuxième partie d'émission, la suite du reportage de Léo sur ce grand classique du théâtre Platonov de Tchekhov. La semaine dernière, Léo avait rencontré Mathias Broissard, le metteur en scène. C'est au tour des comédiens et des comédiennes. Cette fois-ci, le spectacle s'est joué ce week-end. Il y aura de la musique comme d'hab et on commence par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Un édito un peu spécial puisque je voulais vous parler de Guillaume Batz ce matin, humoriste qui est décédé il y a quelques jours. Il était atteint de la maladie des os de verre et je vous conseille vraiment son spectacle qui est disponible entièrement sur YouTube, son spectacle qui s'appelle Hors Cadre. C'est un spectacle absolument excellent. C'était un petit bonhomme haut comme trois pommes qui avait tout compris. C'était un petit bonhomme un peu difforme en somme qui nous a tout appris à accepter nos vies, nos différences et à en rire. Il s'appelait Guillaume Batz. C'était un petit bonhomme, haut comme trois pommes, un éternel enfant, qui savait que le rire pouvait de tout guérir comme la poésie. Il était cet infait de tous le plus grand, il riait de la mort comme on joue de la vie, il était cette fleur qui fleurit au printemps. À toi qui es différent ou qui es tout pareil au jardin d'enfants, qui te moques de l'autre, n'oublie pas ce Guillaume, ce petit bonhomme un peu difforme en somme qui nous a tout appris. C'était un petit bonhomme, haut comme trois pommes, qui avait tout compris. C'était un petit bonhomme un peu difforme en somme qui nous a tout appris.
Je ne sais pas pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi, depuis toujours, c'était comme ça. À l'école, déjà tout enfant, lorsque je répondais « présent », toute la classe riait, riait. Et ce rire me rendait triste. La vie n'est pas une scène. Et j'avais vraiment de la peine. Ces gens qui riaient sans savoir. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi, depuis toujours, c'était comme ça. Un beau jour, j'ai connu l'amour. J'ai dit, je t'aimerai toujours. Et la fille riait, riait. Et son rire me rendait triste. Je me disais, t'as pas trop de veine. Et j'avais vraiment de la peine. Cette fille qui riait sans savoir. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Je sais pas pourquoi, depuis toujours, c'était comme ça. Un jour, j'en ai fait mon métier, un peu forcé, presque obligé. Et le public riait, riait. Mais je n'étais plus triste. J'avais trouvé mon existence. Et maintenant, lorsque je pense aux gens qui riaient sans savoir, c'est bizarre. Maintenant, je sais pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Maintenant, je sais pourquoi. Je suis heureux. Comme ça.
Le spectacle de Guillaume est dispo sur YouTube hors cadre, c'est le conseil du jour. Allez, dans un instant, Olivier du réel CPU 48 nous rejoint, mais on écoute d'abord Madame Nature. Tiens, tiens.
Sur le bord de ma fenêtre, accoudé à l'horizon, je regarde ma planète s'emmêler dans les saisons. Quel heureux arrangement et Capharnaüm unique, réglé on ne sait comment, comme du papier à musique. Si d'aventure je vous déçois, Madame Nature, comme il se doit, promis, juré de vous à moi, je vais changer que vous soyez au moins une fois fière de moi. Pour nos arbres et nos rivières, nos montagnes et nos banquises, de nos tours de verre, on a arrêté les bêtises d'un même abracadabra. Retapons l'astre magique, réglé on ne sait pourquoi, comme du papier à musique. Si d'aventure je vous déçois, Madame Nature, comme il se doit, promis, juré de vous à moi, je vais changer que vous soyez au moins une fois fière de moi. Ras le pôle, nous dit-elle, Éden au bout du rouleau,
Madame
à chasser le naturel, il ne revient pas au galop. Pour ce qu'il reste d'animaux, de solennel et de beau, encore ce merle moqueur qui m'invite à lever tête, délicir à la bonne heure nos portables et tablettes. Cette chanson fait le serment de veiller aux cailloux cosmiques. Régler, oui, mais jusqu'à quand? Comme du papier à musique. Comme du papier à musique. Si d'aventure je vous déçois, Madame Nature, comme il se doit, promis, juré de vous à moi, j'avais changé que vous soyez au moins une fois fière de moi.
Eh ben, c'est toujours un plaisir de l'accueillir dans le studio. Nous sommes ce matin avec Olivier Cagna. Bonjour.
Bonjour à tous.
Olivier, tu es le co-directeur du Réel CPIE Lozère. Nous sommes voisins, c'est toujours un plaisir. Ça fait quelque temps maintenant que les papillons fringants ont commencé, toute une série d'événements partout en Lozère, on va en parler. D'abord, en est-il besoin? Peut-être que des auditeurs ou des auditrices ne connaîtraient pas votre structure. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est le Réel?
Eh bien, Réel, donc R-E-L.
REEL, ça veut dire Réseau Éducation Environnement de la Lozère. Et puis dernièrement, enfin il y a quelques années maintenant, on a été labellisé CPIE, donc Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Donc on est une structure, un réseau associatif qui rassemble une cinquantaine d'associations en Lozère, donc des acteurs locaux sur lesquels on s'appuie pour mener des animations liées à la transition écologique au sens large sur un peu toutes les thématiques à la fois de l'écologie mais pas que, l'alimentation ou les problèmes aussi de santé environnement. Donc voilà, le champ des thématiques peut être assez large et c'est pour ça qu'on a besoin de s'appuyer sur plein de compétences en Lozère pour animer le territoire.
Le label CPIE, vous l'avez eu maintenant il y a quelques années, est-ce que ça a changé quelque chose concrètement pour vous?
Effectivement, le label CPIE, c'est un label donc national qui permet d'être un peu mieux identifié par les collectivités locales. Et on l'a vu, effectivement, on a notamment développé aussi une mission qui s'appelle l'accompagnement des territoires. Accompagner les territoires, ça veut dire être aux côtés des territoires, donc des collectivités locales principalement, les communautés de communes, les mairies. Et je vais citer quelques exemples. On peut avoir des projets comme la revégétalisation des cours d'école, ce qu'on appelle des cours oasis. On peut aussi revégétaliser, enfin avec le CAUE, enfin bref, on s'appuie sur d'autres partenaires, mais donc CAUE, Conseil en architecture et urbanisme et environnement, on revégétalise des centres-villes. Aussi, on travaille sur l'accueil des pollinisateurs sauvages, notamment dans le Val d'Aunesse. On accompagne des cantines scolaires sur améliorer leurs pratiques en termes de manger gourmand et sain, surtout sur la partie sain. Voilà, donc c'est assez large, effectivement, mais on s'ancre de plus en plus dans les politiques publiques et dans les liens avec les politiques territoriales liées à la transition écologique.
Ça représente un travail de dingue. Ça va l'équipe, là? Vous tenez le coup, quand même?
Ouais, on est 7. L'équipe est composée de 7 salariés. Donc oui, c'est pas mal. Ouais. Ça a augmenté beaucoup ces 3 dernières années. Et au-delà de ça, il y a l'équipe, mais il y a aussi tout le réseau d'adhérents, effectivement, sur lesquels on délègue de plus en plus de missions pour justement avoir des animations à la fois de qualité, mais aussi en quantité. Parce que, comme on va le voir là, sur les rendez-vous du papillon fringant, on a besoin d'animateurs sur le terrain qui puissent accompagner les thématiques de la transition écologique.
Ouais, parce qu'ils sont énormes, tout ce que vous faites à l'année, les rendez-vous du papillon, effectivement, on en viendra dans un instant. L'éducation à l'environnement, comme l'éducation aux médias d'ailleurs, doivent être des priorités. Pour nous, on a la chance d'avoir plein de programmes qui se mettent en place. Est-ce qu'il en est de même pour vous?
Alors oui, on a des programmes, comment dire, il y a des, enfin on le voit hein, dans l'actualité, on voit que les thématiques liées à la sécheresse, au changement climatique, au bien manger, que je dirais de plus, les insectes aussi, tout ce qui est lié, je l'avais dit, à la pollinisation, on a maintenant, on le constate, hein, il y a des gros soucis liés, écologiques, c'est plus que d'actualité. Et donc, les politiques publiques ont réussi à trouver quelques moyens financiers, enfin les pouvoirs publics ont trouvé quelques moyens financiers. Il y a beaucoup d'appels à projets au niveau national où les collectivités peuvent répondre. Il y a un fonds vert qui est mobilisable par les mairies et les communautés de communes. Donc voilà, c'est quelque chose qui devient transversal un peu à tous les sujets. Et nous, effectivement, on est là pour aider et accompagner à mettre des actions en place, en fait, dans les territoires. Ouais.
La question peut paraître simpliste, mais est-ce que tu penses que c'est assez en termes de moyens, tant les enjeux sont colossaux, en fait?
Alors, les moyens... Après, nous, on est sur la partie éducation, formation, accompagnement. On va pas jusqu'à la réalisation, l'aménagement. Enfin, on va pas faire les travaux d'aménagement. Après, j'ai du mal à voir l'ampleur, effectivement, de tous ces moyens qui devraient être mis. On voit que ça avance pas vite. On est aussi peut-être un peu dépassé par des enjeux. On fait des choses localement. On voit les moyens localement et les actions qu'on mène ici en Lozère, mais au niveau national, est-ce que les lois avancent? Est-ce que globalement, au niveau européen aussi, la transition écologique, elle peut pas se faire. C'est aussi un enjeu global avec des actions locales, mais Donc on a du mal un peu à mesurer effectivement au niveau global si je ne pense pas qu'il y ait assez de choses de faites. Effectivement, encore, j'ai entendu dernièrement là la loi sur l'utilisation du plastique d'emballage qui vient de reculer parce qu'il doit y avoir des lobbying derrière. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez global. Hein. La transition écologique ne convient pas à tout le monde, notamment voilà, au grand système industriel, pour pas dire autre chose.
Ouais, ça c'est sûr. Mais commençons par le local.
Oui, c'est ça.
Nous, on peut faire des choses à notre échelle et le réel est là pour le prouver.
Voilà, et ces dernières années, on a constaté que les collectivités, voilà, comme je viens de dire, pouvaient avoir quelques moyens supplémentaires. Est-ce qu'ils sont suffisants? Je pense pas, puisqu'il y a encore les problèmes sont là. Après, est-ce que l'humanité est en capacité de gérer ces problèmes-là, bien que ce soit en partie nous qui les ait causés, même avec plein de sous, voilà, je sais pas.
Est-ce que l'humanité est prête? L'épreuve de philo avait lieu la semaine dernière. Ouais. Vous avez 4 heures. Alors, mais parlons justement de choses qui sont là pour faire réveiller, pour élever les consciences, dirons-nous. Les papillons fringants, une bien jolie expression. C'est la troisième année que vous les mettez en place. Comment est née l'idée de ces papillons?
Alors les papillons fringants, déjà, le papillon c'est nous, c'est le réel, notre logo historique hein, depuis plus de 20 ans maintenant. C'est ce papillon qui a évolué au fil des années et qui maintenant se retrouve être un peu le titre donc de ces rendez-vous liés à des rendez-vous pratiques sur l'écologie. Alors au quotidien, mais pas que, parce qu'on y a à la fois des visites de terrain, mais il y a aussi voilà des ateliers très pratico-pratiques, comment le mettre en œuvre chez moi ou comment, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle au niveau du jardinage. Et du coup, ce papillon fringant, il représente un peu le réseau. Du côté papillon, et le côté fringant, c'est voilà, le côté un peu actif, dynamique, volontariste et envie de faire des choses. Voilà.
Et d'ailleurs, un papillon, si je ne dis pas de bêtises, est assez éphémère. Vous, ça fait 20 ans que ça dure.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est pas commun, un papillon qui a 20 ans. Ouais.
Alors justement, l'idée, si j'ai bien compris, se décline en 4 étapes. S'émerveiller, comprendre, agir, célébrer. Mmh. C'est beau.
Effectivement, c'est un peu un fil conducteur qu'on a sur cette troisième édition qui est très particulière. Hein. On avait eu deux éditions précédentes qui n'avaient pas du tout la même forme. Là, on veut vraiment aller vers le grand public, toucher de nouvelles personnes. C'est pour ça aussi que les formats des animations sont un peu atypiques, peut-être. Et surtout, on s'appuie sur de nouveaux acteurs, notamment de la culture, à travers des musiciens, des théâtreux, des conteurs. Et aussi, on s'appuie sur des salles de cinéma, sur des bibliothèques, donc voilà, sur des espaces de vie sociaux, sur des foyers ruraux. Donc, c'est aussi les lieux qui accueillent nos animations, qui sont très importants. Et d'ailleurs, je les remercie là, parce que c'est ça qui aussi fait la réussite de cette troisième édition. C'est que pour une fois, j'allais dire, enfin pour la, ouais, on a du monde à nos animations. Elles sont quasiment complètes à chaque fois. Et ça, c'est parce que on s'est appuyé sur des relais locaux, des associations locales qui accueillent nos animations, qu'on propose gratuitement, enfin via des subventions qu'on a bien sûr. Mais c'est très important d'avoir ce relais dans les territoires pour communiquer localement et que les gens participent à ce qu'on propose en fait.
Et puis vraiment donner une part, comme tu l'as dit, culturelle, spectaculaire un peu à ce que vous faites, c'est-à-dire que ça donne de l'attrait aussi à vos animations.
Ouais, c'est une nouvelle approche qu'on a souhaité donner, effectivement, on va en reparler par la suite, ouais. Mais si on pouvait associer ce qu'on appelle nous culture et nature pour justement faire en sorte qu'on ne vienne pas juste à une sorte sur les papillons ou sur les fleurs, mais on va peut-être plus mobiliser de gens si on propose un spectacle lié à cette sortie-là, par exemple. Ouais.
Alors, elles ont commencé en avril, hein, parce que ça s'étend sur plusieurs mois, évidemment, mais là, le 1er juillet, commençons par ça, c'est un événement qui va s'appeler « Du vent dans les branches ». Concrètement, Que va-t-il se passer?
Alors, comment ça va se passer? Concrètement, c'est un peu une célébration, là, pour le coup. C'est plus qu'un atelier, puisqu'il y aura... alors, c'est en train d'évoluer... Enfin, ça a évolué un petit peu ces derniers jours. Le lieu sera toujours dans la forêt de la Loubière, mais côté... sur la commune de Chadenay, si je ne dis pas de bêtises. Il faut réserver, en plus, pour ce 1er juillet. Donc, n'hésitez pas. Voilà, il y a un numéro de téléphone... À contacter, enfin de nous-mêmes d'ailleurs. Je le dirai après les coordonnées pour trouver toutes les infos. Donc il y aura un atelier de grimpe d'arbres sur l'après-midi. Donc ça se passe de 14h à 18h, voilà, à la forêt de la Loubière, pas loin entre le Blémard et Bagnoles-les-Bains, en gros. Ensuite, découverte des plantes et cuisine d'un apéro sauvage avec les fleurs collectées. L'animatrice sera Sophie Lemonnier. Ensuite, il y aura aussi le pays d'arrêt d'histoire qui sera là et qui nous fera aussi une intervention sur plus le côté voilà patrimoine culturel autour de ce lieu et j'en oublie, voilà, il y aura 3 ou 4 ateliers sur cet après-midi là offerte aux participants. On est sur une jauge de, je crois, 70, du coup n'hésitez pas donc à vous inscrire. Notre numéro, c'est le 04 66 45, 17 et 46. C'est vraiment important de réserver parce que voilà, notamment sur la grimpe d'arbres, les baudriers sont limités, mais c'est très chouette de pouvoir monter en haut des cimes des arbres, voilà, et tout le reste. Donc on travaille aussi en partenariat, il y aura l'ALEP aussi qui proposera une animation aussi sur ce temps-là. Il y aura le parc national, bien sûr. Voilà. Et puis l'idée, c'est de finir que l'apéritif sauvage qui va être préparé lors de la sortie plante sauvage contribue aussi en même temps. Les Root Boy Crew organisent leur banquet du Blémard. Et donc voilà, on essaye par là aussi de s'associer à des événements comme ça pour faire le lien avec d'autres actions sur le territoire, quoi.
Le Root Boy qu'on salue et qui organise évidemment le festival Dolt. Et pour être tout à fait complet, rajoutons à tout cela le concert de la violoniste Laure Chapleur à partir de 16h. Un joli concert perché, Laure, que je salue affectueusement. Justement, pour organiser ce genre d'événement, et notamment le premier, vous avez des partenaires, tu l'as évoqué tout à l'heure. Ici, qui sont-ils?
Alors là, il y a les... on va dire les partenaires financiers, c'est bien sûr, il y a l'agence de l'eau, beaucoup, parce que la thématique du changement climatique et de l'eau est quand même un fil conducteur sur ces 80 dates. D'ailleurs, je le précise maintenant, c'est 80 dates sur 40 lieux avec 35 intervenants différents, même une quarantaine d'intervenants différents. Mais voilà, à côté de l'agence de l'eau, il y a le SDEE aussi qui finance quelques actions sur le côté réduction des déchets, syndicat départemental d'équipement et qui gère la gestion des déchets. La région Occitanie et le département, voilà, ça c'est fait. C'est grâce à eux qu'on peut donc proposer ces 80 animations, puisque les animateurs sont des animateurs professionnels, la plupart associatifs, mais certains peuvent être aussi des accompagnateurs en montagne ou des guides de pêche. Quand ils proposent des animations, effectivement, nous on les rémunère pour qu'ils puissent proposer une demi-journée ou des fois une journée entière d'atelier.
Voilà. Et puis il y a aussi des intermittents, tu l'as évoqué tout à l'heure, donc voilà, c'est vraiment riche et varié. Comment ça se passe? Admettons, l'année prochaine, les papillons fringants m'intéressent, etc. Je suis, je sais pas, musicien, oui. Disons-le comme ça. Comment ça se passe? C'est un appel à projet ou c'est un moment de rencontre? Comment vous avez fonctionné?
Alors, on s'appuie principalement, donc, comme je disais, on est une cinquantaine d'associations qui adhèrent au réseau. C'est ça l'essence de notre projet associatif. C'est rassembler les acteurs du territoire et créer du lien entre ces acteurs. On organise nous, c'est notre cœur de métier, c'est faire monter en compétence les gens sur l'éducation à l'environnement, sur les différentes thématiques d'actualité. Je citerai qu'un exemple, les perturbateurs endocriniens, on y travaille beaucoup, on est devenu un peu pas des spécialistes, mais pas loin, puisque voilà, on a créé même un outil pédagogique sous forme d'un escape game. Donc bref, pour revenir à ta question, il suffit de nous contacter, éventuellement d'adhérer si ça vous intéresse, mais je dirais que là, il y a vraiment deux choses dans l'adhésion. Il y a l'adhésion au projet associatif, à la vie du réseau, de rencontrer d'autres animateurs, d'autres personnes qui ont cette sensibilité-là de l'éducation à l'environnement, et voir, après, il y a des synergies qui peuvent se faire aussi en direct entre associations, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, effectivement, c'est nous, on a besoin de beaucoup d'animateurs et d'intervenants tout au long de l'année pour mener nos projets. Donc, on va effectivement piocher dans ces compétences, et effectivement, on passe souvent. Donc, quand on est adhérent, on est inscrit sur une liste de diffusion. D'ailleurs, adhérent ou sympathisant, hein, on ferme pas complètement, on ferme pas d'ailleurs notre liste de diffusion. Donc, les informations qu'on envoie peuvent être envoyées plus largement que les adhérents. Et des fois, effectivement, on lance des appels et des recherches d'animateurs, des fois spécialisés, hein, quand c'est des thèmes très liés, par exemple, à la thématique de l'eau. Là, il nous faut des gens qui soient très calés sur la biologie des rivières, notamment. Mais plus largement, pour les ateliers du papillon fringant, effectivement, là, on cherche un peu plus large, et je dirais qu'à la fois, on écoute les envies des animateurs qui ont envie de proposer quelque chose d'un peu original ou qui ont envie de tester quelque chose, mais on écoute aussi les lieux d'accueil. Et je pense de plus en plus, on va être aussi à l'écoute des lieux d'accueil qui, eux, savent ce qui va plaire à leur public, en fait. Et voilà, et nous, on est là au milieu, le réel, pour mettre en synergie un peu à la fois ces lieux d'accueil qui accueillent les animations et les intervenants qui ont des envies à proposer, quoi.
Mmh. Ouais, c'est absolument fou parce que, comme tu l'as dit, c'est 80 événements, ça va jusqu'au mois d'octobre, si je ne m'abuse. Oui, bon, ça. Là, c'est sûr, c'est le 1er juillet, rappelons-le, c'est sur inscription. Et vous pouvez même m'envoyer un mail, mais je mettrai tous les liens, auditeurs, auditrices, manon@reel48.org, je pense que ça marche aussi. Hein.
Oui, Manon.
Je mettrai tous les liens. C'est limité à combien de places, tiens, d'ailleurs?
Alors, ça dépend des sorties. Pour le 1er juillet.
Pour le 1er juillet.
Pour le 1er juillet, ouais, je crois que c'est une 70. La jauge, elle est à 70 parce que, voilà, il va y avoir deux personnes qui vont notamment faire la graine d'arbre. Mais, forcément, je crois que ça sera par tranche de 12. Il y a 4 tranches de 12 personnes qui pourront monter dans les arbres. Et après la sortie, pareil, une sortie, quand on est plus de 30, 35, ça devient compliqué à animer pour que tout le monde voit bien les choses. Donc voilà, sur les différents ateliers, l'idée c'est de répartir un peu, il y aura une continuité dans l'ensemble des ateliers, mais voilà, il nous faut un nombre limité quand même d'inscriptions, donc on est sur à peu près 70-80 maxi. Après, l'idée c'est qu'on ne refusera pas du monde, on essaiera toujours de trouver une place pour vous tous, n'hésitez pas à venir.
On parle un peu de toutes ces problématiques, l'eau, etc. Est-ce que vous avez des contacts avec les préfectures ou autres? Est-ce que justement vous discutez, parce que le préfet, et pardon, a eu quelques propos dans Midi Libre il y a quelques mois sur il n'y a pas de problème d'eau en Lozère, elle est juste pas au bon endroit. Chose qu'il a rectifiée par la suite, évidemment, puisqu'il a été interpellé, et l'erreur est humaine, hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous avez des contacts avec eux pour les sensibiliser justement à toutes ces questions-là?
Oui. Alors, il y a notre assemblée générale qui a eu lieu le 15 juin dernier. Mmh. Les services de l'État, par le directeur de la DDT, étaient représentés, donc on a quand même une écoute. On a une écoute, ils savent qu'on existe. Après, il y a des structures de concertation publique comme les Assises de l'eau, dans lesquelles on est directement impliqué. Alors, effectivement, actuellement, les débats portent plutôt sur le stockage de l'eau en Lozère. Bon, ça se profile pas trop mal. Vu que tout le monde est autour de la table, en fait, il y a un genre de consensus qui est là et tout le monde peut s'écouter. Après, les actions qui sont mises en place, il y en a beaucoup qui sont mises en place auprès du milieu agricole, mais celles-là, je ne les suis pas directement. On n'est pas vraiment légitime, nous, le réel, pour dire voilà, ce qu'il faut faire sur le milieu agricole. Mais néanmoins, c'est un acteur indispensable pour la gestion de cette ressource en eau. Après, les problèmes d'eau, on le sait, hein, ces derniers temps, les rivières ont un petit peu plus augmenté. Mais néanmoins, s'il y a 2 mois de sécheresse derrière, ça va être compliqué. Je dirais que voilà, la structure est là via les Assises de l'eau. Le préfet y intervient, y est là et peut écouter tout ce qui est dit. Et nous, on a des choses à dire. Alors nous, on est plutôt sur la sobriété des usages, hein. C'est notre fonction d'éduquer, de sensibiliser les gens à cette sobriété. Après, on propose des actions à mettre en place. Après, elles sont retenues ou elles sont pas retenues. C'est toujours la difficulté d'aller chercher des financements ensuite par derrière pour mener les actions.
Toujours la même question, effectivement. Justement, est-ce que les touristes sont sensibles à ce que vous faites ou alors vous avez beaucoup de locaux
Et ben pour l'instant, les sorties étaient quasiment toutes complètes avec des locaux puisque la période estivale n'est pas encore tout à fait là. Beaucoup d'animations vont avoir lieu sur juillet, août, effectivement. Eh ben, on verra bien. Alors effectivement, notre catalogue du Papillon Fringant a été diffusé à 1500 exemplaires dans l'ensemble des offices du tourisme, mais pas que, hein, dans aussi tous les lieux qui nous accueillent pour ces animations. C'est lié aussi voilà, à la politique des espaces naturels sensibles du département, où on propose aussi des sorties sur ces espaces remarquables. Ça, ce sont des sorties qui sont vraiment ouais, accessibles à tous, et il y a un intérêt effectivement à ce que les touristes viennent découvrir des lieux ou être sensibilisés parce qu'ils ont du temps et qu'ils sont en vacances et qu'ils peuvent peut-être suivre ces animations alors qu'ils n'auraient peut-être pas le temps dans leur vie active. Je sais pas. Mais donc oui, c'est complètement ouvert à tout le monde et je pense qu'effectivement on va le voir hein, cet été, mais je suppose que ça va être bien rempli nos animations. Donc n'hésitez pas à réserver à chaque fois. Donc toutes nos animations sont sur notre site internet réel48.org et à chaque fois il y a un numéro ou un mail pour réserver vos places. Ouais.
Je mets le lien évidemment sur notre site dans un instant. Il y a le caméo aussi, hein, si jamais.
Le caméo, ouais.
Le caméo, c'est comme ça.
Il est feuilletable en ligne, effectivement. Il y a un lien où le catalogue est feuilletable en ligne. Alors, le support papier, finalement, on y a réfléchi. Hein, voilà, ça pose question. Mais. Pour nous, c'est encore un support qui permet quand même de valoriser en termes graphiques, en termes d'informations. Voilà, on a quelque chose de physique qui est là et on trouve que c'est encore important et il est bien apprécié ce catalogue parce que voilà, on a aussi fait un effort sur la mise en page et sur le côté graphisme. On a travaillé avec notamment Charlotte Coulon.
Voilà. J'avoue que je l'ai entre les mains, c'est vrai que c'est bien fait et c'est très pratique en fait. Oui. Évidemment, le calaméo, camaléo.
Oui, le calaméo, il faut aller consulter en ligne, ça peut se faire aussi, mais il faut ouvrir l'ordinateur.
C'est tout à fait ça en fait. Et qu'est-ce qui pollue le plus au final? On ne le saura jamais. Merci beaucoup Olivier.
Avec plaisir, merci à vous pour d'avoir présenté cette belle action.
Avec plaisir, tu es le co-directeur du Réel 48. Je te laisse puisque tu as de la route à faire.
Hein. Oh oui, c'est loin. J'ai au moins 20 ou 25 mètres à faire ouais, pour aller au bureau.
C'est toujours un plaisir de vous accueillir, le Réel. À très bientôt Olivier et très bel été à vous.
Merci.
Des pavillons gris, des murs tagués, des ciels pluvieux. Tellement soda dont m'appelle Lisbonne. Le peu que je gagne, je le claque dans les taxiphones. Ouais. Ma vie c'est des trains de banlieue. Des pavillons gris, des murs tagués, des ciels pluvieux. Tellement soda dont m'appelle Lisbonne. Le peu que je gagne, je le claque dans les taxis. Sortais des rimes plein de Kentaras. Dans mes coups d'essai, j'étais sapé en baggy Carhartt. Chou sans les lacets. Je venais d'Afrique, on me disait tu sais, t'es sous-développé donc révolté. J'ai dû travailler pour fermer des clapets. J'étais la risée de tout le collège. Petit déraciné, petit africain dans la cour de récré. Mineur isolé, ça jouait les durs, ça parlait de raquettes et de crans d'arrêt. Je venais de là où soufflaient les obus et roulaient les blindés, ok ok. La France c'est la paix, la sécurité, mais c'est aussi la morsure du froid et la solitude. L'Eldorado n'était pas si beau, non papa nous mentait. Si je reste ici c'est pas pour rapper mais piller les études. Les années passent et les feuilles tombent à tous les automnes. Et moi je m'étonne d'être encore ici, voyez les consonnes. Ma vie s'écrit sur des bouts de papier, je chantonne et fredonne. Un blues qui ne me quitte plus depuis les bancs d'école, et ouais. Ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués, des ciels pluvieux. Tellement soda dont m'appelle Lisbonne. Le peu que je gagne, je le claque dans les taxiphones, ouais. Ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués, des ciels pluvieux. Tellement soda dont m'appelle Lisbonne. Le peu que je gagne, je le claque dans les taxis. Et puis je prends racine dans le bitume. Faut chercher la thune, acheter des pulls. Ouais, le froid nous tue, jamais je ne m'habitue. Et toutes les nuits, je fais des cauchemars de mes antécédents. Je pisse au lit, je rêve qu'Edward Norton va me casser les dents. J'écris pour petite sœur, toujours amère, ma vie est insipide. Tout
tous mes cœurs et sans le stylo ma mère, je vous jure je me suicide. À l'école je me dissipe, à l'époque je veux me casser d'ici. Tu veux devenir mon pote, impossible. Ce soir j'ai piscine, je perds la raison. À la maison, plein de cadavres dans le placard. Nos passés de génocide, d'exil, tout ça n'est que blackout. Je cherche le vacarme de la rue, le silence des livres. J'habite une cabane sur la lune. Quand le monde se délite, j'ai vu les fins de monde, les carnages, les lynchages à l'essence. Et j'observe les jeunes de mon âge, j'envie leur innocence. Ne savent pas que tout est possible, que tout peut s'effondrer d'un jour à l'autre, comme dans un roman de Chinois Achebe, ouais.
Ma vie c'est d'être un banlieue, des pavillons gris, des murs tagués, des ciels pluvieux. Tellement soda dont m'appelle Lisbonne, le peu que je gagne, je le claque dans les taxiphones, ouais. Ma vie c'est d'être un banlieue, des pavillons gris, des murs tagués, des ciels pluvieux. Tellement soda dont m'appelle Lisbonne, le peu que je gagne, je le claque dans les taxiphones.
J'appelle mon père au bled. Je rêve de rentrer mais c'est cher le kérosène, façon c'est dead. Au nord l'armée se bat contre les rebelles, c'est le bordel. Gosse sans repère, pas bien dans ses cortèses, entre parenthèses. Vivre l'exil c'est être en quarantaine, faut avancer. Répète ma mère, mentalité guerrière, je suis cadenassé. Par mon passé j'avance en marche arrière, arraché de mes racines comme brûlé à l'acide. Y'a pas de psy, seule la musique sera ma catharsis. Maintenant j'écris comme je respire, mais je respire en péché. Tout m'inspire, j'aspire la vie. J'apprends à l'encaisser, Panama, un champ de canal été. Je reste assis sur le canapé. Je repense à ces années passées, mes premiers textes rappés. Quand je sortais plein de Kentaras, dans mes coups d'essai, j'étais sapé en bague et carte. Je joue sans les lacets. Je venais d'Afrique, on me disait, tu sais, t'es sous-développé, donc révolté. Je me suis mis à rapper pour fermer des clapets.
Allez, on écoute la suite du reportage de Léo sur ce grand classique du théâtre Platonov de Tchekhov. La semaine dernière, Léo avait rencontré Mathias Broissard, le metteur en scène. C'est au tour des comédiens et comédiennes aujourd'hui. Et c'est parti.
C'est donc vrai que tu es une voleuse et une bandite ?
Criblé, criblé, criblé.
Maintenant, ce que je vous dis, c'est que vous êtes une canaille extraordinaire. Je vous méprise.
Ah, j'irai voir avec le poste.
Alors, donc moi, donc je m'appelle Magali. Je joue un petit rôle au tout début de l'acte 1 qui s'appelle Vengerovitch. Assez vite, je prends le rôle de Sofia Yegorovna, qui est un des rôles féminins importants de la pièce.
Ce rôle, tu l'aimes bien? Tu l'as choisi? On te l'a donné? Comment ça se passe?
C'est Mathias qui m'a distribué dedans. Oui, maintenant, je l'aime. En fait, on connaissait bien la pièce avant que Mathias nous propose qu'on la monte. Et moi, j'avais déjà travaillé le rôle de Anna Petrovna, que joue Mélina. J'avais travaillé ce rôle-là, ce qui est un rôle que j'aime beaucoup. Et donc, Sofia, je l'aimais un peu moins. Mais en fait, maintenant, j'ai appris à l'aimer. C'est un très beau rôle. En vrai, c'est un super cadeau qu'il m'a fait.
Et c'est quoi qui faisait que tu ne l'aimais pas? C'est le personnage en lui-même ou...
Alors en fait, ce que j'aimais moins, c'est qu'elle est beaucoup en demande de... Enfin en fait, on comprend qu'elle vient, donc elle vient d'un milieu assez intellectuel. On ne sait pas trop pourquoi elle se retrouve ici. On comprend qu'elle a des problèmes de santé, mais c'est pas développé plus que ça. Elle arrive, elle vient de se marier, et puis en fait très vite, en retrouvant Platonov, ça la perturbe beaucoup, parce que lui aussi d'ailleurs, ça le perturbe beaucoup. Ils sont beaucoup sur cette nostalgie des rêves qu'ils avaient et qu'ils n'ont pas accompli les deux en fait. Mais c'est vrai que les deux se mettent, c'est un peu un miroir d'eux-mêmes aussi dans le sens, voilà où on en est, et en fait aujourd'hui où on en est, c'est pas ce qu'on voulait faire quand on était plus jeune, c'est pas là où on voulait être. Et c'est juste que je l'aimais pas trop aussi parce que dans la suite de la pièce, bon, évidemment, il l'a reséduit, mais pas que elle. Et en fait, ouais, dans la suite de l'histoire, je trouve qu'elle est beaucoup en demande, très exigeante. On comprend qu'elle les juge beaucoup, qu'elle aime pas Trilitsky, elle trouve que c'est un fanfaron et elle regarde un peu tout le monde de haut. Elle, c'est en fait, c'est l'étrangère qui vient dans ce milieu, quoi, dans ce monde. Bon, ça, je le trouve en même temps assez beau, c'est qu'elle est vraiment dans l'absolu, quoi. Pour elle, à partir du moment où elle décide d'aller avec Platonov, voilà, son mariage est fini et elle se donne corps et âme, quoi. Et ça va se finir mal et elle devient folle, en fait, à la fin, parce que pour elle, en fait, elle s'est donnée à lui, donc elle a sacrifié son mariage, mais du coup, elle a aussi sacrifié son honneur, parce qu'à cette époque-là, bah, déjà, tu rompais pas un mariage comme ça. Et puis, bah, les femmes étaient dépendantes des situations des hommes. Et donc, c'est pour ça que je trouve... À la fois, du coup, j'ai appris à l'aimer pour ça, parce qu'en fait, elle prend le risque en fait de tout perdre pour lui. Et mais du coup, voilà, elle est à la fin, c'est horrible parce qu'elle est en appétit pour elle. Quand il la rejette, à la fin, il la rejette et elle devient folle, quoi.
C'est quoi ta façon de travailler ton rôle ? Quelle manière tu vas travailler, apprendre, répéter ?
Évidemment, bon bah, on lit toute la pièce parce qu'il faut quand même avoir une vue globale de la pièce, même si on crée qu'un seul acte au début. Pour Platonov, en l'occurrence, pour cette pièce-là, en l'occurrence, c'est plus petit à petit, en lisant, relisant la pièce, en apprenant le texte. Et puis aussi avec Mathias, là je t'avoue, je ne me rappelle même plus trop ce qu'on avait fait, mais on avait eu des discussions déjà chacun, il nous avait fait un entretien chacun, où on avait pu déjà, juste à la table, explorer des pistes vraiment d'interprétation et de vraiment sur les enjeux, tirer un peu les fils de ce qui ressort du texte, des caractères et tout ça. Voilà, je n'ai pas fait un travail plus... pas de... travail psychologique ou quoi. Enfin, je trouve qu'avec ce travail-là, avec Mathias, ça a plus été une infusion lente, quoi. Après, Mathias nous a donné parfois des petits devoirs comme ça, des petites impros à faire ou des petites recherches. Donc, ce qui fait aussi qu'on, du coup, on se positionne plus. Ah, ok, alors, qu'est-ce que je ferais en tant que Sophia, là ? Qu'est-ce qu'elle ferait ? Ça permet de personnaliser beaucoup les choses.
Parlant de ça, quelle est ta part d'impro dans la pièce ?
Maintenant, je dirais que l'impro, elle est pas tant de rajouter du texte, de tout ça. C'est surtout par rapport aux espaces, en fait, par rapport au mouvement, au dessin dans l'espace. Mais là, tu vois, cet acte-là, on va pas pouvoir faire de filage avant de jouer. Donc, ça va être vraiment one shot ce week-end. Et du coup, il va y avoir forcément des réadaptations, des surprises, des « Ah oui, tiens, je m'étais dit que j'allais aller là-bas, mais en fait, là, je le sens pas, donc je vais pas aller là-bas. » Enfin, tu vois, faire les choses un peu différemment.
Bah, merci beaucoup.
Merci à toi.
Moi, c'est Alexandre. Je joue Vassili, un serviteur de la maison. Et je fais de la musique sur le projet Platonov. En fait, on avait déjà travaillé sur une autre pièce de théâtre avant avec ce collectif où je prenais en charge la musique. Et du coup, je continue à le faire. Et le fait d'être serviteur, ça permettait de ne pas avoir trop de textes à apprendre, de justifier ma présence au plateau. Et c'était confortable, quoi.
La musique que tu fais, c'est une musique originale ou alors c'est une reprise, une adaptation ?
Là, ce qu'on a entendu, c'était une reprise de Mozart de la Flûte Enchantée. Et du coup, c'est une partition qui est adaptée pour la guitare, quoi. Et dans la pièce, il y a différents répertoires. L'idée de choisir du Mozart, c'était aussi pour poser un cadre un peu spatio-temporel à la pièce. La guitare classique, c'est un instrument qui était assez joué à l'époque à la cour russe, un instrument assez bourgeois. Donc ça pose un peu le salon bourgeois. Et ce répertoire, c'était des choses qui pouvaient être jouées à ce moment-là. Donc comme en fait on n'est pas en costume d'époque ni rien, c'était pour ajouter une petite touche pour placer l'histoire, quoi.
La musique, elle prend quelle place dans le spectacle ? Elle est dans chaque acte ? Elle est tout au long des scènes ? Elle est que dans certaines scènes ?
Bah, ça dépend des actes, quoi. Il y a même un acte où je joue pas du tout, juste à la fin, un petit truc au piano. Bah, ça dépend des actes et de comment est-ce qu'on veut habiller. Là, je parlais pas mal de La Flûte Enchantée. C'est une pièce qu'on entend beaucoup au premier acte, qui est pour poser l'ambiance. Après, je passe sur d'autres répertoires. Genre, il y a un moment, je joue du Forêt. Il y a des moments où on chante des airs d'origine slave et ça varie un peu.
Je m'appelle Judith Goudal. Et dans la pièce, moi j'ai un peu tous les petits rôles, mais j'ai surtout un rôle dans la sous-fiction, parce que je sais pas si on t'en a parlé déjà ou pas encore, mais en fait il y a la fiction qui est la pièce Platonov, et il y a la sous-fiction qui est nous qui essayons de jouer la pièce Platonov. Et dans la sous-fiction, moi je joue la petite sœur de Cécile, qui est la metteuse en scène dans la sous-fiction, et qui essaye absolument de s'incruster dans le spectacle au grand dam de Cécile, qui veut pas que sa petite sœur joue dans le spectacle.
Je suis pas sûr qu'on m'a parlé de la sous-fiction. Est-ce que tu peux me raconter du coup, vite fait, me présenter la sous-fiction? Ça se passe pendant les déplacements, c'est ça?
En fait, la sous-fiction, elle est présente tout le temps. C'est vraiment l'histoire un peu en parallèle qui augmente la fiction. C'est-à-dire que dans la sous-fiction, Cécile, qui joue Grekova, est la metteuse en scène du spectacle et ne veut pas jouer dans le spectacle et est amoureuse de Arnaud, qui dans la fiction joue Nikolai. Et donc dans la sous-fiction, il y a Magali, qui s'appelle Magali et qui joue Sofia, et moi j'aimerais trop jouer Sofia. Enfin, il y a un peu plein de... En fait, on a tous notre personnage de fiction et notre personnage de sous-fiction qui est proche de nous, qui porte notre nom, mais qui à la fois n'est pas tout à fait la vérité, parce que Cécile et moi, on n'est pas sœurs, c'est pas elle la metteuse en scène, Arnaud et Cécile ne sont pas ensemble. Enfin, donc tout ça, c'est des choses qu'on s'est racontées entre nous pour que quand on joue les scènes, ça rajoute encore une couche supplémentaire d'enjeu à nos personnages et où finalement, on sait plus très bien la différence, où nos personnages savent plus très bien la différence entre la fiction et la sous-fiction. Quels sont les enjeux de leur personnage de Tchekhov et quels sont les enjeux de leur personnage de la sous-fiction.
J'étais pas au courant. Vous aimez vous compliquer la vie?
Oui, c'est super.
Et du coup, tu disais que tu jouais plein de petits personnages. Tu les as tous en tête, les noms, là?
Alors, je joue Lizotchka, Marco, Bougrov, je sais plus après. Ouais, un peu plein. En fait, un peu tous les... Comment est-ce qu'on dit toutes les servantes, tous les serviteurs, un peu les personnages qui sont censés juste amener des lettres, enfin, ou comme ça. Et du coup, en fait, ou bien, voilà, des petits personnages qui, dans la pièce, ont vraiment des mini-scènes et qui disparaissent très vite, où c'est vraiment un peu presque des cache-misères, des bouche-trous. Enfin, c'est un peu... Ma sœur m'autorise à faire vraiment que les trucs où vraiment, c'est pas censé impacter l'histoire plus que ça.
Et qu'est-ce que tu as réussi à apporter à ces petits personnages ou aux personnages de sous-fiction? Qu'est-ce que tu apportes à ces rôles?
Je pense que mon personnage apporte beaucoup de légèreté. Et c'est un peu cette chose qui est présente dans beaucoup de pièces, mais où il y a souvent des enjeux très forts, des grandes émotions, et en parallèle des histoires plus anodines ou plus légères, et qui font qu'un peu cette espèce d'immense fresque où on est tellement nombreux et nombreuses et où ça va dans tous les sens avec plein de plans différents, ben d'un coup moi j'occupe un peu comme des petits coins de cadre où on peut lire ma petite histoire en filigrane et en parallèle et où ça impacte pas la grande histoire, mais ça fait qu'on a vraiment cette sensation de fresque avec tout le temps partout des petits enjeux, des petites choses qui se passent et des choses aussi un peu un effet papillon où en fait tout influence tout, la grande histoire influence la mienne, et donc moi c'est quelque chose qui m'amuse énormément, enfin qui me fait aussi penser à la bande dessinée où il y a beaucoup de bandes dessinées qui ont ce travail là d'avoir un peu des personnages principaux, puis on peut suivre l'histoire d'une coccinelle en parallèle qui vit sa petite histoire, et puis moi ça me fait beaucoup rire et je pense qu'il y a aussi besoin de cette légèreté dans cette pièce.
Comment est-ce que tu gères ton stress et comment tu vois les autres gérer leur stress?
Alors, on gère tous et toute notre stress très différemment. Moi, je crois que je suis très en panique avant et j'ai besoin de revoir les choses. Il y a Achille avec nous qui nous aide à ce que le spectacle existe un peu dans l'ombre comme ça, et souvent c'est lui qui reçoit mon stress juste avant de commencer parce que tout le monde aussi est en train de se placer, on a une très grande mise, c'est-à-dire préparer nos accessoires parce qu'on doit un peu poser des choses partout dans la forêt, du coup souvent je me retrouve un peu toute seule avec lui et il doit supporter le fait que je saute un peu dans tous les sens, que j'ai besoin de lui refaire mon texte, de lui dire que ça va être terrible et qu'il me dise non et que ça me fasse rire et que du coup en fait je me fais aussi rire en faisant des caisses et en me disant oui c'est ridicule en fait ça va aller très bien.
C'est quoi ta manière d'apprendre ton texte?
Moi j'ai l'impression que ça passe pas mal par le corps, mais j'avoue que je fais un peu tout dans le sens où je le stabilobosse avec des couleurs différentes, où je l'écris... Je le réécris et je fais un peu des différences entre les différents paragraphes pour dans ma tête faire des blocs de pensée, mais je l'enregistre aussi souvent pour l'écouter après en marchant, Et puis finalement, ce qui me semble être le plus efficace, c'est ouais, par le corps, dans le sens où soit je le répète en marchant, puis avec mon corps j'accompagne les différents blocs de pensée, soit une fois qu'on est sur scène dans la scène, bah, je sais que d'un coup il vient hyper facilement parce que je peux associer ces différents mouvements de pensée à des positions dans l'espace. Et les situer et ça les fixe beaucoup mieux dans ma mémoire. Des fois c'est le dire, cacher, après recouvrir. Enfin voilà, il y a un peu tout ça.
Ben, merci beaucoup.
Mais avec plaisir, Léo.
Canon croupe, pas à mermulette. Pa, ah, je suis le spectre de ton père, condamné pour un temps, pardon, à errer la nuit et le jour, oh pardon, toutes ces âmes en peine, et la nuit forcée à jeûner dans le feu, jusqu'à ce que les crimes abjects commis de mon vivant soient brûlés et expurgés. Non, j'ai pas fini. Il m'est interdit de dire le secret de ma prison, mais je pourrais te raconter une histoire dans le moindre
moment. C'est toi qu'ils auraient dû déprogrammer à Genève.
Alors, je m'appelle Jonas Lamblay, et dans la pièce, je joue Kirill Porfirievitch Glagoliev II,
à tes souhaits,
merci, qui est le fils de Glagoliev I, premier du nom, mon père, qui est un amoureux transi de la générale Anna Petrovna, et comme il est amoureux, il leur prête énormément d'argent, et surtout il est propriétaire de terres qui leur appartiennent. Et moi je suis son fils un peu sale tête qui vit normalement à Paris, mais qui, comme il est un peu oisif à Paris, revient quémander de l'argent à son père pour pouvoir continuer à mener la grande vie à Paris.
Je t'ai vu jouer un peu d'un instrument tout à l'heure. Est-ce que tu en joues aussi dans la pièce ?
Oui. Là, moi, dans la pièce, je joue un peu d'erbouka. Voilà.
Ce rôle, comment il te sied ? Qu'est-ce que tu lui apportes ? Comment il te va ? Est-ce que tu l'aimes bien ? Est-ce que c'est un rôle qui te correspond ?
C'est un rôle assez rigolo parce qu'en fait, c'est une toute petite partition. C'est un personnage dont on pourrait presque se dire que la pièce pourrait se passer, mais qui en fait amène juste un ou deux éléments perturbateurs et dont les scènes sont des scènes assez drôles. Je sais pas si c'est un emploi ou un contre-emploi que de me distribuer dans le rôle d'un connard, mais en tout cas c'est très présent à faire.
Est-ce que tu lui apportes quelque chose de personnel, et si oui, du coup quoi?
Non, j'espère pas. Toute la connarditude dont je suis capable. Je sais pas qu'est-ce que je lui apporte. Non, je saurais pas trop dire ce que je lui apporte.
Tu étais là dès le début de la création de la pièce. Tu as gardé le même rôle tout le long, du coup, j'imagine. Est-ce qu'il a évolué, ce rôle ?
Alors non, moi j'étais pas là la toute première année de l'acte 1 où mon rôle était interprété par Mathias, le metteur en scène. Et donc moi je suis arrivé la deuxième année, et puis j'ai été distribué dans ce rôle parce que c'était une année où par ailleurs je travaillais sur une autre production. C'est assez rigolo parce que il y a eu une membrane de porosité entre les deux travaux où je jouais à l'époque Hamlet dans Hamlet, et du coup comme il est question de Hamlet dans Platonov, Mathias s'est organisé pour que rejaillissent des fragments de Hamlet distillés par mon personnage tout au long de la pièce. Et donc oui, après je l'ai gardé tout du long et jusqu'à la fin.
Et dans la sous-fiction, tu as une place comment ?
Dans la sous-fiction, ben je suis un peu le pote connard parisien de la troupe qui vient les voir et qui à la base n'a pas envie de jouer dans cette pièce, puis qui est un peu embarqué malgré lui et qui du coup malgré lui va essayer d'amener un peu de trouble dans cette troupe de gens qui sont venus me déranger au début. Je joue ce personnage du coup qui a tout le temps envie de jouer autre chose parce qu'il trouve quand même que ce qu'il joue c'est pas bien, et lui il aimerait bien faire Shakespeare parce qu'à Paris on fait du grand théâtre comme du Shakespeare.
Un truc que j'aime bien demander aux gens, c'est leur façon de gérer le stress.
Ben, c'est assez rigolo sur cette pièce pour moi parce que c'est en général Il y a le stress avant, le début, et puis ensuite il y a une espèce, enfin pour moi une espèce de où le stress monte, il s'agit un peu de le gérer, etc. Et puis après une fois que d'un coup quelque chose a commencé, c'est quelque chose qui a un peu géré sur lequel on surfe, et puis voilà. Mais en l'occurrence dans cette pièce, moi je commence presque 2 heures après les autres, et en plus j'assiste aux autres, et donc du coup à ce qu'ils font, et donc du coup il y a tout une gestion assez particulière de l'énergie entre la pièce a déjà commencé, mais de savoir que en fait le stress va commencer à monter au fur et à mesure et se déclencher à contre-temps en fait finalement de celui des autres. Et après, bah forcément, sur une pièce et un projet comme ça aussi long, bah, y a à gérer cette énergie et ce stress-là. Il y a quand même quelque chose que, au début des 14 heures, il y a un peu de stress, puis après, ça passe. Mais où quand même, ensuite, des fois, on a des plages où on n'a rien pendant un bon bout de temps et il s'agit de revenir. Et donc, il y a toujours cette espèce de petit picotement avant de se dire, mince, c'est... est-ce que c'est vraiment là le moment? Puis de jouer in situ dehors dans des lieux qui changent en plus, ça apporte son lot de petits stress qu'il n'y a peut-être pas dans un théâtre, de se dire est-ce que je ne me suis pas trompé de chemin? Est-ce que j'arriverai à temps? Est-ce que j'ai bien entendu mon top? Est-ce que je ne rate pas? Est-ce que je ne vais pas laisser quelqu'un tout seul en carafe? C'est plein de petits stress différents.
Ça va, tu as pas trop les autres qui peuvent décharger du stress sur toi vu que tu commences après eux?
Non, je crois pas. Je pense que... Je sais pas si... C'est une question qu'il faudrait peut-être poser aux autres. Je sais pas. Moi, j'aurais pas une gestion du stress. Le stress me fait plutôt... me donne plutôt l'envie de me recentrer et puis de me concentrer un peu sur la trajectoire, les points de repère, les points de rendez-vous, plutôt que de... d'aller voir tout le monde. Mais oui, je pense que peut-être que dans ces moments-là, je peux être une, pour les personnes qui auraient envie de beaucoup parler avant le début du spectacle, je peux être une oreille un peu disponible parce que mon stress à moi viendra 1h30 après.
Et parfait, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Je ne voudrais pas me salir les mains. Je vous ai dit, monsieur, que soit vous étiez un homme extraordinaire, soit une canaille. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que vous êtes une canaille extraordinaire. Je vous méprise. Non, je ne pleurerai plus maintenant. Je suis heureuse d'avoir fini par découvrir quel personnage vous êtes.
Alors, moi, je m'appelle Chloé et dans la pièce, je joue Sacha, la femme de Platonov.
Moi, je m'appelle Cécile et dans la pièce, je joue un peu deux choses. La metteuse en scène de ce spectacle et aussi Grekova, qui est une jeune fille qui est très en colère contre Platonov.
Comment vous vous voyez par rapport à ces rôles? Est-ce que vous reconnaissez dedans? Est-ce que c'est un rôle qui a été choisi?
Moi, à la base, non, c'est pas du tout un rôle dans lequel je me retrouve. Et c'est un rôle c'est un rôle qui est très beau, mais c'est un rôle qu'on a beaucoup repensé et qu'on a beaucoup réécrit pour que ce soit pas juste un rôle de faire-valoir par rapport au personnage de Platonov ou par rapport à d'autres personnages de la pièce. Du coup, j'ai glissé de moi dans le rôle, et tout en essayant de pas non plus déformer trop la sensibilité de ce personnage, mais voilà, en essayant de lui donner peut-être un petit peu plus de consistance.
T'as des exemples de ce que tu as pu glisser ?
Oui, plusieurs. Ben, en fait, normalement, le personnage dans la pièce, c'est vraiment un personnage qui est assez discret, qui a assez peu de texte et de répartie. Et puis du coup, on en a fait un acte, en fait, ça, de lui rajouter, par exemple, dans l'acte 1, on lui a vraiment rajouté un moment où elle raconte une histoire pour qu'elle puisse un peu raconter son point de vue sur l'histoire d'amour qu'elle a avec Platonov.
Ben pareil, moi, c'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est Mathias qui a distribué les rôles à tout le monde. Et par contre, ben, forcément, c'est des choses où on a monté ces actes en très peu de temps. Et donc, du coup, nos premières propositions sont les bonnes. Et puis, ben, par exemple, moi, j'aime beaucoup courir, puis mon personnage se retrouve à courir beaucoup. Ou alors, le fait d'être lié à une part d'impro aussi, dans cette sous-fiction où je suis la metteuse en scène de la pièce, ben, où il y a de l'impro qui vient. Et donc, forcément, c'est nous qui rajoutons des mots, c'est nous qui rajoutons ce qu'on a envie de faire. Et puis, forcément, dans cette pièce avec des femmes du 19e siècle, ben, il y a toujours une question qui se pose par rapport aux rôles féminins, les rôles masculins, et puis comment on s'en empare pour que ce soit crédible pour nous aujourd'hui Et donc forcément, on essaye de leur insuffler un peu de la force ou de la parole, un peu plus que ce qui serait donné dans la pièce. Surtout vu le thème de la pièce, je dirais que c'est important.
Tu parlais juste un peu avant de la vision du coup de la femme dans le texte qui a été un peu réadaptée au goût d'aujourd'hui, avoir plus de sens. T'as des exemples de ce qui a été fait ?
C'est dur à dire parce que c'est un texte qui est à la fois très compliqué sur la question de la femme et à certains côtés se trouve très féministe. Et du coup, on oscille entre les deux. Et puis c'est une question qui est très compliquée aujourd'hui de se positionner. Est-ce que se rajouter du texte et moins jouer qu'on est quelqu'un d'oppressé, est-ce que ça c'est rendre service au propos ou est-ce qu'il faut au contraire vraiment montrer en fait ce qui se passe et jouer à fond les oppressions, jouer à fond le fait qu'on ait moins de texte. Et ça c'est des questions auxquelles on est toutes et tous confrontés. Aujourd'hui, et je dirais que juste s'emparer pleinement de ce rôle, le rendre vivant et puis lui donner une validité en fait, et pas que de pas être juste un faire-valoir pour les rôles masculins qui vivent des grandes histoires d'amitié, et leur donner une légitimité propre. Après, chacune le fait comme elle peut, avec ce qu'elle est, comme actrice et avec son envie. Mais ouais, déjà de dire je suis pas un faire-valoir et ça a sa trajectoire propre, elle a de la valeur, essayer de faire ça. Et puis soit le texte suffit avec ça, soit on a parfois rajouté du texte, notamment pour le personnage de Sacha. Moi, dans le prologue, je rends hommage aussi à la sœur de Tchekhov, qui s'appelle Maria Tchekhova, puis qui a recopié le manuscrit de Tchekhov et qui fait que ça nous est parvenu aujourd'hui. Mais sans elle, on n'aurait pas ce texte-là. Et en fait, personne ne connaît son travail de l'ombre. On connaît que le travail de son frère, qui était un écrivain connu. En fait, il y a un peu plein de petites manières de faire, mais je dirais qu'il n'y a pas de recette.
C'est vrai que dans cette pièce, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je pense que pour l'époque, la question de la femme, elle est justement traitée, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment une attention à ça de la part de Tchekhov au moment où il écrit le texte. Du coup, je trouve ça important et juste que nous aussi, on se pose des questions aujourd'hui pour pouvoir être en fait à sa hauteur, mais sachant qu'on a qu'on est ici maintenant longtemps après que il ait écrit ce texte, donc je trouve ça juste qu'on se mette dans la même démarche que lui. Et après, je trouve ça très juste ce que dit Cécile, c'est effectivement ça pose mille questions et je pense que l'important c'est qu'on se les pose, et c'est pas grave si on trouve pas la bonne réponse, et je suis pas sûre qu'il y ait une bonne réponse. Et puis ce que je trouve aussi intéressant, c'est que effectivement le réflexe, ce serait peut-être d'avoir autant de textes que les rôles masculins, que ce soit des textes autant qu'on les joue de façon aussi théâtrale, avec une voix aussi forte. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt que de vouloir être à égalité, en fait, de vouloir laisser apparaître une sensibilité, des silences, des moments plus calmes. Je trouve ça assez important aussi de pas vouloir faire la même chose, mais de vouloir défendre une partition et une sensibilité qui est autre.
Que je trouve aussi que dans la pièce, ce qui est intéressant par rapport au parcours général, c'est qu'au début, il y a vraiment ce truc où on aime ces personnages masculins, où ils nous font beaucoup rire, où ils sont très, très éclatants comme ça. Et puis en fait... Merde. Et puis en fait, au fur et à mesure, ils deviennent aussi insupportables, et pour le public, et aux yeux des autres personnages. Et qu'en fait, c'est aussi ce truc de tuer les héros au sein même de la pièce, où en fait ces personnages qu'au début on peut trouver tellement intelligents, tellement brillants, tellement aimables, et ces acteurs aussi, vu qu'on mélange un peu tout, petit à petit on les déconstruit, et du coup on est beaucoup plus en empathie avec les personnages féminins qui les subissent dès le départ. Et ça, je trouve aussi intéressant comme trajectoire que fait en fait la pièce d'elle-même, et qu'on augmente peut-être un peu, mais...
J'ai souvenir que c'est un personnage qui peut jouer beaucoup avec des accessoires et des décors. Je crois qu'elle est derrière une fenêtre, qu'elle crie, des choses comme ça. Comment c'est rattrapé du coup dans une scénographie externe comme ça ?
C'est vrai qu'effectivement l'acte 3, c'est l'acte entre guillemets où il y a le plus d'accessoires ou de décors, parce que normalement c'est l'acte qui se passe dans l'école, donc chez Sacha et Platonov, et nous on a remplacé cette école par une caravane, et du coup ça se joue devant la caravane, et il y a un petit salon de jardin qui effectivement est notre plus gros décor entre guillemets. Et après il y a des choses dont on peut tout à fait se passer du moment que cet endroit du foyer est représenté de cette façon là
et merci beaucoup.
Merci.
deux, ça vous va?
Oui, bien sûr. Mais bien.
Moi, je suis Adrien Mani et je joue deux rôles dans la pièce. Glagoliev et Ivan Ivanitch, qui sont deux pères différents. Voilà.
Moi, je m'appelle Robin, je suis un peu l'homme à tout faire de la troupe, et dans le spectacle, je joue Yakov, qui est l'intendant, un peu l'homme à tout faire, on peut dire, hein, de la générale, et également Robin, qui est du coup un peu l'homme à tout faire de la troupe.
Comment vous voyez votre rôle? Est-ce que vous l'aimez beaucoup? Est-ce que ça a été compliqué au début?
Ben moi, du coup, j'ai deux rôles. La première année, j'en avais qu'un seul, et puis après, j'ai repris un rôle parce que une comédienne était absente la deuxième année, puis après, ben, je l'ai gardé. moi, je les aime bien, et ils sont assez... Enfin, ils me font beaucoup rire à jouer, et ils sont dans des contrastes. Enfin, ils sont contrastés à jouer. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà.
Et du coup, en tant qu'homme à tout faire, comme tu te présentes, qu'est-ce que tu fais, c'est-à-dire? T'as des exemples?
Ouais. À la base, alors maintenant, il y a heureusement Achille qui nous a rejoint et qui fait beaucoup parce que j'étais trop au plateau pour faire toute la technique. Mais tout à la base sur le projet, je faisais beaucoup les courses bêtement pour qu'on aille à manger. Aller tout d'un coup chercher un 4x4 parce qu'on a un 4x4 dans une scène qui est maintenant un tracteur, construire une douche solaire, couper des bios de bois pour construire un gradin pour le public, construire des assises pour le public, donc ouais, plein de petites choses. Donc oui, voilà, des petites choses comme ça, ouais, tout ce qui est un peu logistique autour, aller chercher à manger un petit 4 heures pour les acteurs et actrices, voilà, ce genre de choses.
D'accord, ben, merci à vous.
Merci beaucoup.
C'est donc vrai que tu es une voleuse et une bandite?
Criblé!
Maintenant, ce que je vous dis, c'est que vous êtes une canaille extraordinaire! Je vous méprise!
Ah, j'irai voir avec le poste!
Et voilà, merci Léo, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi pour parler d'Ennemi BD, c'est ce week-end et ça va être génial comme d'hab. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. À mercredi, ciao!
Les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui n'osent, parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. Oh, j'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. Oh, j'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses et encore moins les gens. Ceux qui veulent bien n'être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. Oh, j'aime leurs petites chansons. S'ils passent pour des cons, j'aime leurs petites chansons. Même s'ils passent pour des cons, j'aime les gens qui doutent et voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs autant au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de bien plus belles flammes que tous ces tristes culs et qu'on les remercie, qu'on leur dise, qu'on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis. Et tant pis pour vos fesses, qui ont fait ce qu'elles ont pu.